vêpres. Où l'on parle encore avec l'abbé, Guillaume a plusieurs idées mirobolantes pour déchiffrer l'énigme du labyrinthe et y réussit de la façon la plus raisonnable. Après quoi, on mange de l'angelot en palette. L'abbé nous attendait avec un air sombre et préoccupé. Il avait un document à la main.
« Je viens de recevoir à l'instant cette lettre de l'abbé de Conques, » dit-il. « Il me communique le nom de celui à qui Jean a confié le commandement des soldats français et le soin de la sécurité de la légation. Ce n'est pas un homme d'armes, ce n'est pas un homme de cour, et il sera en même temps un membre de la légation. »
« Rare mariage de différentes vertus, » dit Guillaume inquiet. « Qui sera-ce ? »
« Bernard Guy ou Bernard Guidoni, comme il vous plaira de l'appeler. »
Guillaume éclata en une exclamation de sa propre langue, que je ne compris pas, pas plus que l'abbé, et ce fut peut-être mieux ainsi pour tous les trois, car le mot que Guillaume émit sifflait d'une façon obscène. « La chose ne me plaît pas, » ajouta-t-il aussitôt. Bernard a été pendant des années le maillet des hérétiques dans la région de Toulouse et a écrit une Practica Officii Inquisitionis Hereticae Prauitatis à l'usage de tous ceux qui devront poursuivre et détruire Vaudois, Béguins, Bougres, Fraticelles et Dolciniens.
Je le sais, je connais le livre, admirable de doctrine.
Admirable de doctrine, admit Guillaume. Il est tout dévoué à Jean qui, au cours des années passées, lui a confié de nombreuses missions dans les Flandres et ici, dans la Haute-Italie. Et même quand il a été nommé évêque en Galicie, on ne l'a jamais vu dans son diocèse et il a continué son activité inquisitoriale. Maintenant, je croyais qu'il s'était retiré dans l'évêché de Lodève. Mais à ce qu'on dirait, Jean le remet à l'ouvrage et précisément ici, dans l'Italie septentrionale. Pourquoi justement Bernard et pourquoi avec la responsabilité des gendarmes ?
« Il y a une réponse, » dit l'abbé, « et elle confirme toutes les craintes que je vous exprimais hier. Vous savez bien, même si vous ne voulez pas l'admettre avec moi, que les positions sur la pauvreté de Christ et de l'Église soutenues par le chapitre de Pérouse, fussent avec pléthore d'arguments théologiques, sont celles-là même soutenues de manière beaucoup moins prudente et avec un comportement moins orthodoxe par de nombreux mouvements hérétiques. Nul besoin d'être grand clerc pour démontrer que les positions de Michel de Cézanne, que l'empereur a faites siennes, sont les mêmes que celles d'Hubertin et d'Ange Clarino. Et jusque-là, les deux légations seront d'accord. Mais Guy pourrait bien faire davantage, et il en a l'habileté. Il tentera de soutenir que les thèses de Pérouse sont identiques à celles des Fraticelles ou des pseudo-apôtres.
On savait qu'on en serait arrivé là, même sans la présence de Bernard. Tout au plus, Bernard le fera-t-il avec plus d'habileté par rapport à tous ces personnages insignifiants de la curie, et il s'agira de discuter contre lui avec davantage de finesse.
« Oui, » dit l'abbé, « mais à ce point-là, nous sommes devant la question soulevée hier. Si nous ne trouvons pas d'ici à demain le coupable de deux ou peut-être trois crimes, je me devrais d'autoriser Bernard à exercer une surveillance sur les affaires de l'abbaye. » Je ne puis sceller à un homme investi du pouvoir de Bernard, et de par notre accord mutuel, ne l'oublions pas, qu'ici, dans l'abbaye, se sont passés, se passent encore, des faits inexplicables. Autrement, au moment où il découvrirait, au moment où, à Dieu ne plaise, adviendrait un nouveau fait mystérieux, il aurait tous les droits de crier à la trahison.
« C'est vrai, » murmura Guillaume, l'air soucieux. « Il n'y a rien à faire. » Il faudra être sur nos gardes et avoir Bernard à l'œil, qui aura à l'œil le mystérieux assassin. Ce sera peut-être un bien. Bernard, tout occupé de l'assassin, sera moins disponible pour intervenir dans la discussion.
Bernard, occupé à découvrir l'assassin, sera une écharde au flanc de mon autorité. Rappelez-vous-le. Cette histoire trouble m'impose pour la première fois de céder partie de mon pouvoir à l'intérieur de ces murs. Et c'est un fait nouveau non seulement dans l'histoire de cette abbaye, mais dans celle de l'ordre clunisien même. Je ferai n'importe quoi pour l'éviter, et la première chose à faire, serait de refuser l'hospitalité aux légations.
Je prie votre sublimité de réfléchir sur cette grave décision, dit Guillaume. Vous avez entre les mains une lettre de l'empereur qui vous invite chaleureusement à...
Je sais ce qui me lie à l'empereur,
dit brusquement l'abbé.
Et vous le savez vous aussi. Et donc vous savez que malheureusement, je ne peux pas reculer. Mais tout cela est très mauvais.
Où est Béranger? Que lui est-il arrivé? Que fait-il?
Je ne suis qu'un frère qui a mené voilà bien longtemps des enquêtes inquisitoriales. On ne trouve pas la vérité en 2 jours.
Et enfin, quel pouvoir m'avez-vous conféré?
Puis-je entrer dans la bibliothèque? Puis-je poser toutes les questions que je veux?
Je ne vois pas le rapport entre les crimes et la bibliothèque, dit l'abbé courroucé.
Adelme était enlumineur, Venantius traducteur, Béranger aide bibliothécaire, expliqua patiemment Guillaume.
Dans ce sens, tous les 60 moines ont affaire avec la bibliothèque au même titre qu'ils ont quelque chose à voir avec l'Église. Alors pourquoi ne cherchez-vous pas dans l'Église ?
Frère Guillaume, vous êtes en train de mener une enquête par moi mandatée et dans les limites où je vous ai prié de la mener.
Pour le reste, dans cette enceinte, je suis le seul maître après Dieu et par sa grâce.
Et ce vaudra aussi pour Bernard.
D'autre part, ajouta-t-il d'un ton plus doux, il n'est pas même dit que Bernard soit ici juste pour la rencontre. L'abbé de Conques m'écrit aussi qu'il descend en Italie pour poursuivre dans le sud. Il me dit même que le pape a prié le cardinal Bertrand du Poggetto de monter de Bologne pour se rendre ici et prendre le commandement de la légation pontificale. Bernard vient peut-être pour rencontrer le cardinal.
Ce qui, dans une perspective plus large, serait pire. Bertrand est le maillet des hérétiques dans l'Italie centrale. Cette rencontre entre 2 champions de la lutte anti-hérétique peut annoncer une offensive plus vaste dans le pays pour compromettre à la fin tout le mouvement franciscain.
Et de cela nous informerons sur le champ l'empereur, dit l'abbé. Mais en ce cas, le danger ne serait pas immédiat. Nous serons vigilants. Adieu.
Guillaume resta un moment silencieux, tandis que l'abbé s'éloignait. Puis il me dit « Surtout, Azzo, cherchons à ne pas nous laisser prendre par la hâte. Les choses ne se résolvent pas rapidement quand on doit accumuler autant de menues expériences individuelles. Moi, je retourne à l'atelier, parce que sans les vers, non seulement je ne pourrai pas lire le manuscrit, mais il ne sera pas même nécessaire qu'on refasse cette nuit une expédition dans la bibliothèque. Toi, va t'informer si on a des nouvelles de Béranger. »
À ce moment-là, accouru à notre rencontre, Nicolas de Morimonde, porteur de nouvelles désastreuses.
Alors qu'il cherchait à mieux biseauter le ver le meilleur, celui sur lequel Guillaume plaçait tant d'espoir, il s'était brisé. Et un autre, qui pouvait peut-être le remplacer, s'était fêlé quand il tentait de l'enchâsser dans la fourche. Nicolas nous montra, désolé, le ciel. Il était déjà l'heure de vêpres et l'obscurité tombait. Pour ce jour-là, on ne pourrait plus travailler.
Une autre journée perdue, convint Guillaume avec amertume, refrénant, comme il me l'avoua après, la tentation de saisir à la gorge le verrier maladroit, qui d'ailleurs était déjà suffisamment humilié.
Nous le laissâmes à son humiliation et allâmes nous informer au sujet de Béranger. Naturellement, personne ne l'avait trouvé. Nous nous sentions à un point mort. Nous déambulâmes un peu dans le cloître, ne sachant que décider. Mais Guillaume ne fut pas long à être absorbé, le regard perdu en l'air, comme s'il ne voyait rien. Depuis peu, il avait extrait de sa coule une petite tige de ces herbes que je lui avais vu cueillir des semaines auparavant, et il était en train de la mastiquer comme s'il en retirait une sorte de calme excitation. De fait, il paraissait absent, mais de temps à autre, ses yeux brillaient, comme si dans le vide de son esprit s'était allumée une idée nouvelle, puis il retombait dans cette singulière et active hébétude. Soudain, il dit
« Certes, on pourrait... »«
Quoi ?» demandai-je.
« Je pensais à la façon de nous orienter dans le labyrinthe. Ce n'est pas simple à réaliser, mais ce serait efficace.
Au fond,
La sortie est dans la tour orientale, et cela, nous le savons.
Or, suppose que nous ayons une machine qui nous dise de quel côté se trouve le septentrion. Qu'arriverait-il ?
Il suffirait naturellement de tourner sur notre droite et on irait vers l'Orient,
ou bien il suffirait d'aller en sens contraire,
et nous nous dirigerions à coup sûr vers la tour méridionale.
Mais en admettant qu'il existât pareille magie,
le labyrinthe est précisément un labyrinthe, et à peine prise la direction de l'Orient, nous rencontrerions un mur qui nous empêcherait d'aller tout droit, et nous perdrions de nouveau notre chemin, observai-je.
Oui, mais la machine dont je parle indiquerait toujours la direction du septentrion, même si nous avions changé de route, et à chaque instant, elle nous dirait de quel côté nous tourner.
Ah, ce serait merveilleux.
Mais il faudrait avoir cette machine, et elle devrait être capable de reconnaître le septentrion de nuit et dans un endroit clos, sans pouvoir compter ni sur le soleil, ni sur les étoiles.
Et je ne crois pas que votre Bacon même possédait semblable machine, dis-je en riant.
Eh bien, tu te trompes, dit Guillaume, car une machine de ce genre a été construite et des navigateurs l'ont utilisée. Elle n'a pas besoin des étoiles ou du soleil, parce qu'elle tire parti d'une pierre merveilleuse, égale à celle que nous avons vue dans l'hôpital de Séverin, la pierre qui attire le fer. Et elle a été étudiée par Bacon et par un mage picard, Pierre de Maricourt, qui en a décrit les multiples usages.
Et vous, vous sauriez la construire ?
En soi, ce ne serait pas difficile. La pierre peut être utilisée pour produire bien des merveilles, entre autres une machine dont le mouvement perpétuel n'a besoin d'aucune force externe. Mais la trouvaille la plus simple a été même décrite par un arabe, Baylek al-Kwabayaki. Tu prends un vase rempli d'eau et tu y fais flotter un bouchon où tu as enfilé une aiguille de fer. Ensuite, tu passes la pierre au-dessus de la surface de l'eau en un mouvement circulaire, tant que l'aiguille n'a pas acquis les mêmes propriétés que la pierre. C'est alors que l'aiguille, mais la pierre aussi, aurait pu le faire si elle avait eu la possibilité de tourner sur un pivot. Se place la pointe en direction du septentrion, et si tu circules avec le vase, elle se tourne toujours du côté de la tramontane. Inutile de te dire que, si tu as marqué aussi sur le bord du vase par rapport à la tramontane, les positions de l'austère, de l'aquilon, etc., tu sauras toujours de quel côté te diriger dans la bibliothèque pour rejoindre la tour orientale.
« Quelle merveille !» m'exclamai-je.
« Mais pourquoi l'aiguille pointe-t-elle toujours vers le septentrion ?»«
La pierre attire le fer, je l'ai vu, et j'imagine qu'une énorme quantité de fer attire la pierre. Mais alors, dans la direction de l'étoile polaire, aux extrêmes limites de l'orbe terrestre, il existe de grandes mines de fer ?»
Certains, en effet, ont suggéré qu'il en va ainsi.
Sauf que l'aiguille ne pointe pas exactement dans la direction de l'étoile nautique, mais vers le point de rencontre des méridiens célestes, signe que, comme il a été dit, « Hic lapis gerit in se similitudinem coeli ». Et les pôles de l'aimant reçoivent leur inclinaison des pôles du ciel et non de ceux de la terre, ce qui est un bel exemple de mouvement imprimé à distance et non par causalité matérielle directe. Un problème dont s'occupe fort mon ami Jean de Jandun, quand l'empereur ne lui demande pas de faire sombrer Avignon dans les viscères de la terre.
« Alors, allons chercher la pierre de Séverin et un vase et de l'eau et un bouchon de liège, » dis-je tout excité.
« Tout doux, » dit Guillaume. « Je ne sais pourquoi, mais je n'ai jamais vu une machine qui, parfaite dans la description des philosophes, se soit révélée ensuite parfaite dans son fonctionnement mécanique. Tandis que la serpe d'un paysan, qu'aucun philosophe n'a jamais décrite, marche comme il se doit. » J'ai peur qu'à circuler dans le labyrinthe avec une lampe dans une main et un vase plein d'eau dans l'autre.
Attends, il me vient une autre idée. La machine indiquerait le septentrion même si nous étions hors du labyrinthe, n'est-ce pas ?
Oui, mais à ce compte-là, elle ne servirait de rien parce que nous aurions le soleil et les étoiles, dis-je.
Je sais, je sais.
Mais si la machine marche aussi bien dehors que dedans ? Pourquoi ne devrait-il pas en aller de même pour notre tête aussi ?
Notre tête ?
Sûr qu'elle marche aussi dehors, et de fait, nous savons fort bien de l'extérieur quelle est l'orientation de l'édifice.
Mais c'est lorsque nous sommes à l'intérieur que nous ne comprenons plus rien.
Justement.
Mais oublie la machine à présent.
Penser à la machine m'a amené à penser aux lois naturelles et aux lois de notre pensée. Voilà le hic.
nous devons trouver de l'extérieur une façon de décrire l'édifice tel qu'il est à l'intérieur.
Et comment ?
Laisse-moi y penser. Cela ne doit pas être si difficile.
Et la méthode dont vous parliez hier, ne vouliez-vous pas parcourir le labyrinthe en faisant des signes avec un charbon ?
Non, dit-il. Plus j'y pense, moins cela me convainc. Peut-être n'arrivais-je pas à me rappeler bien la règle, ou peut-être, pour circuler dans un labyrinthe, faut-il disposer d'une bonne Ariane qui t'attende sur le seuil en tenant le bout d'un fil. Mais il n'existe pas de fil aussi long, et même s'il en existait, cela signifierait, souvent les fables disent la vérité, qu'on ne sort d'un labyrinthe qu'avec une aide extérieure, ou les lois de l'extérieur seraient pareilles aux lois de l'intérieur. Voilà, Hatzo, nous nous servirons des sciences mathématiques. Dans les seules sciences mathématiques, comme dit Averroès, on identifie les choses connues de nous avec celles connues de façon absolue.
Alors, vous voyez que vous admettez des connaissances universelles ?
Les connaissances mathématiques sont des propositions construites par notre intellect de manière à toujours fonctionner comme vraies, ou bien parce qu'elles sont innées, ou bien parce que la mathématique a été inventée avant les autres sciences. Et la bibliothèque a été construite par un esprit humain qui pensait de façon mathématique. Car sans mathématiques, tu ne fais pas de labyrinthe. Il s'agit donc de confronter nos propositions mathématiques avec les propositions du bâtisseur. Et de cette confrontation, la science peut surgir, parce qu'elle est science de terme sur terme. Et en tout cas, cesse de m'entraîner dans des discussions de métaphysique. Quelle diablesse de mouche t'a piqué aujourd'hui ? Toi qui as de bons yeux, prends plutôt un parchemin, une tablette, quelque chose sur quoi tracer des signes et un stylet.
Bien, tu as ce qu'il faut. Bravo, Hatzo.
Allons faire une promenade autour de l'édifice, tant que nous avons encore un peu de lumière.